Bernard Pivot, vous qui avez interviewé tant d'écrivains et d'artistes, quelles sensations éprouvez-vous à chaque fois que vous vous retrouvez désormais à la place de celui que l'on questionne ?
Eh bien, je me dis toujours que je préférerais être à la vôtre, tout simplement.
C'est vrai ?
Parce que, oui, parce que je serais plus jeune, je serais dans l'activité, je serais dans ma vraie profession de journaliste, bien sûr.
Vous êtes dans l'activité puisque vous êtes sur scène et que
le
public vient à vous.
Oui, mais j'apporte des réponses maintenant, je préfère des questions.
Oui, je vous comprends, je suis dans la même situation. Alors, vous publiez donc « Au secours, les mots m'ont mangé », le texte est accompagné du DVD, du spectacle que vous avez créé l'an dernier au Théâtre du Rond-Point à Paris et que vous jouez régulièrement en région, un texte qui met en scène un écrivain, lauréat du prix Goncourt, Bernard Lehu, expliquez-nous tout ça.
Oui, tiens. Un écrivain donc qui se raconte, dès son plus jeune âge, il s'est passionné pour les mots, leur richesse, leur subtilité, voire leur complexité. Exemple tout de suite et extrait, Bernard Pivot, de votre spectacle.
Un jour, l'instituteur nous a dit « F-E-2-M-E se prononce femme ». Mais j'ai dit à l'instituteur « Il n'y a pas de A dans femme ». Ah, bien vu, c'est exact, mais c'est comme ça. Le E de femme se prononce A. Et je me suis dit à part moi, oh là là, je sens qu'avec les femmes, ça va être compliqué.
Alors, on l'a compris, au secours, les mots m'ont mangé. Et l'occasion pour vous, Bernard Pivot, de célébrer la langue française avec de l'humour, de l'esprit, un bel appétit. Un plaisir, j'imagine, décuplé par le fait de le partager sur scène.
Oui, alors c'est un peu bizarre parce que c'est Jean-Michel Ribes qui un jour m'a dit « Écoute, tu lisais très bien les textes apostrophes des autres, donc tu dois très bien lire les tiens. » Alors, ce qui m'a plu tout de suite, c'est que j'allais faire le contraire de ce que j'ai fait toute ma vie à la télévision, c'est-à-dire à la télévision, je parlais devant 1 à 3 millions de téléspectateurs, mais je les voyais pas, je les entendais pas, je savais pas s'ils étaient contents. Est-ce que là, ils ne sont que 200 à 500 ou 1000 parfois?
Mais, oui, mais parce que vous jouez dans des petites salles.
Entends, ils rigolent, ils applaudissent, voilà. Donc c'est le contraire. Et c'est parce que c'était justement le contraire de ce que j'avais fait que j'ai relevé le défi.
Alors, l'écrivain que vous interprétez a puisé dans le petit Larousse son copain de jeu, comme il dit, l'amour des mots, y compris des noms propres. Autre extrait.
Voyageur immobile et infatigable, j'allais de Chicoutimi à Tegucigalpa, de Saint-Amour à la Chaise-Dieu, du Machu Picchu aux îles Galapagos, de Marne la Coquette à Novosibirsk. Les dictionnaires sont les meilleures agences de voyage du monde.
Alors c'est extraordinaire parce que ce sentiment que vous exprimez, nous enfants, nous l'avons tous vécu, c'est le miracle du dictionnaire. Le Larousse a également été votre meilleur copain d'enfance, Bernard Pivot ?
Ah oui, parce que c'était pendant la guerre et j'avais deux livres comme ça à ma disposition, dans le petit village du Beaujolais, Quincy en Beaujolais, où je vivais avec ma mère, mon père étant prisonnier de guerre. C'était une vieille édition du petit Larousse et les fables de La Fontaine. Donc le premier livre que j'ai lu, vraiment du début à la fin, c'est le petit Larousse, et non pas un roman.
Vous l'avez vraiment lu, du début à la fin, ça paraît inouï aujourd'hui.
À saute-mouton, j'allais d'un mot à un autre. Vous savez, c'est très amusant, le dictionnaire. Et le goût des mots et le goût des dictionnaires m'est resté.
Alors, votre premier livre, c'était le Larousse. Est-ce que vous vous souvenez, Bernard Pivot, du premier mot que vous avez aimé dans ce dictionnaire?
Non, ça, je ne peux pas dire ça. Non, là, je mentirais si je vous répondais par une astuce en vous disant « Oui, c'était le mot paix ou le mot amour. » Non, pas du tout.
Il y avait des illustrations dans ce petit Larousse?
Je crois. Il me semble qu'il y avait des petites vignettes, des toutes petites vignettes. Vous savez, pas
moi, je me souviens de Sardanapale, vous savez, le tableau. Oui. Alors, c'était les premiers chocs érotiques.
Oui. J'ai eu le même, Yves. Confesse que j'ai eu le même.
Mais oui, c'était fascinant. Bon, bref. Alors, l'amour de la langue française ne vous rend pas aveugle. Vous soulignez son manque souvent de clarté, de rigueur. Exemple, le mot sexe.
Ben oui, le mot sexe, incroyable, il y a deux sexes quand même, il y a le sexe masculin et le féminin, et le mot sexe est du genre masculin, exclusivement du genre masculin. C'est pas normal, on dit bien un sexologue et une sexologue. Pourquoi ne dirait-on pas un sexe et une sexe? D'autant plus qu'il y a un E féminin à la fin. Pourquoi ne dirait-on pas? C'est incroyable. Et les ligues féministes du temps de Saint-Louis, parce que c'est du temps de Saint-Louis...
Alors c'est ce que j'allais dire, c'est un mot qui est arrivé assez tardivement dans la langue française.
Oui, sexus, bien du latin de Saint-Louis, un peu hypocrite, Saint-Louis quand même. Et donc, à l'époque, les ligues féministes de l'époque auraient dû dire « Ah non, on veut le masculin et le féminin ». Les ligues féministes de Saint-Louis n'ont rien dit.
Non, oui, peut-être pas si nombreuses que ça.
Mais est-ce que ça veut dire que la langue française est misogyne ?
Oui. Oui, oui. Ah, la langue française est misogyne parce que très souvent, elle n'accorde pas aux femmes la place qui leur revient. Souvent, on a féminisé beaucoup de choses. Alors, une des choses les plus amusantes du spectacle, c'est je prends des exemples. Alors, mon écrivain dit, j'ai tout de suite été pour la féminisation des titres, des grades, des professions. Et alors, il en énumère un président, une présidente, un facteur, une factrice,
un assassin. Oui.
Un assassin, une assassine, il est pauvre, puis d'un seul coup, il tombe sur un tribun, une tribune. Ah, il dit, alors là, ça va plus du tout. Puis après, il dit un gourmet, une gourmette. Ah non, ça va plus du tout. Et ainsi de suite.
Mais c'est ce qui fait le charme de cette langue. Ce sont toutes ces incohérences, ces bizarreries.
Ben oui, bien sûr, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on peut jouer de cette incohérence et de ces bizarreries.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait la simplifier ? Alors, il y a eu ce débat sur la réforme de l'orthographe.
Non, moi, je pense qu'elle se simplifie d'elle-même. Il faut la laisser faire, il faut la...
Donc, vous accompagnez le mouvement. C'est-à-dire que vous pensez qu'on n'est pas obligé de la simplifier autoritairement, si je puis dire, mais qu'on doit accepter ces évolutions en fonction de l'usage, en quelque sorte.
Oui, c'est l'usage qui décide, c'est l'usage. Vous avez raison, c'est comme ça, c'est l'usage.
Vous n'êtes pas ayatollah de...
Non, pas du tout. Non, moi, je ne suis pas un ayatollah, d'ailleurs, en rien du tout, je suis à l'ayatollah. Yeah.